Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est devenu un rendez-vous immanquable pour nombre d'entre vous. Franck Ferrand nous entraîne comme chaque jour sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous faisons un métier passionnant, vous savez, je parle des praticiens de l'histoire. Cette matière vivante est en constante évolution, les trouvailles d'aujourd'hui contredisent parfois les vérités d'hier et se distinguent peut-être de celles de demain. Alors vous croyez connaître un dossier et même par cœur, vous l'ouvrez, vous creusez un peu et soudain vous trouvez des choses que personne n'avait vues ou voulu voir auparavant.
Et justement, c'est ce qui est arrivé il y a peu à une historienne qui travaillait sur le cas de Damiens.
En effet, Julia, Robert François Damiens, vous savez, c'est cet homme d'une quarantaine d'années, originaire d'Arras, qui en janvier 1757 s'est rué sur le roi Louis XV et l'a blessé d'un coup de canif dans les côtes. On pensait tout connaître de cette affaire. Eh bien, vous allez voir que Marion Sigaud a d'autres idées sur la question et qu'elle est en train de nous dire que nous étions peut-être passés à côté de l'essentiel.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Le jour décline tôt en ce 5 janvier, veille de l'épiphanie 1757. À Versailles, le domaine royal est couvert de givre et un vent froid s'insinue dans les galeries et les enfilades. La cour est en effectif réduit. Ceux qui ne sont pas rentrés chez eux passer les fêtes en province vont s'installer à Trianon, qui est plus agréable. À l'époque, c'est seulement le Grand Trianon, évidemment. Plus agréable et plus facile à chauffer. C'est là-bas que la famille royale et son proche entourage a prévu de tirer les rois. C'est une fête importante, la fête des rois à l'époque. Louis XV a demandé que sa voiture soit prête pour 5h30 et avant de quitter le château, il prend le temps de rendre visite à l'une de ses filles, Madame Victoire, qui se rétablit doucement d'une forte grippe et qui doit encore garder le lit. Le roi reste un moment à bavarder avec elle, puis il se retire quelques minutes dans son cabinet avec son fils, le dauphin Louis, pour étudier des plans de réserve de chasse. Et enfin, à 6h moins le quart, il redescend par son escalier privé, on appelle ça le degré du roi. Vous pourrez aller visiter les lieux. D'ailleurs, à Versailles, tout ce coin-là du château n'a pas changé du tout depuis l'époque. La voiture est en attente devant la porte vitrée. Et puisque la nuit est déjà tombée, les gardes qui forment une double haie entre cette issue et la berline ont été munis de flambeaux. Louis XV traverse le vestibule en compagnie de son fils et de plusieurs grands officiers de la couronne. Il y a là le premier gentilhomme de la chambre, le grand écuyer, le capitaine des gardes. À présent, il sort, il fait quelques pas dehors, il s'apprête à monter en voiture quand un inconnu qui s'est faufilé entre les gardes, dans la pénombre, on distingue assez mal ce qui se passe, cet inconnu vient bousculer le monarque. Bizarrement, ce qui frappe surtout les témoins de l'époque, c'est que cet homme ait gardé son chapeau, ce qui est très impoli en présence du roi. « Duc d'Ayen, lance le roi au capitaine des gardes, on vient de me donner un coup de coude. Quel est cet homme qui ne se découvre pas ?» crie quelqu'un. À ce moment-là, l'inconnu jette son couvre-chef au sol, il commence à s'éloigner. Louis XV est sur le marchepied quand il grimace, porte la main à son flanc. Est-ce qu'une épingle m'aurait piqué ? Il retire sa main, elle est couverte de sang. « Le roi est blessé !» crie un valet de pied. « C'est ce monsieur !» dit Louis XV en désignant l'inconnu qui est en train de s'éclipser dans la nuit. Vous imaginez l'émotion générale, le dauphin poursuit l'agresseur, il se jette sur lui, le maîtrise au sol. « Qu'on l'arrête !» dit Louis XV, « mais qu'on ne le tue pas !» Le roi est en train de s'accrocher, si je puis dire, aux grands officiers qui s'empressent à son secours. Alors l'inconnu est fouillé, on trouve tout de suite dans sa poche l'arme du crime, un canif à deux lames dont il s'avérera que c'est la plus petite qui a griffé le souverain, pas très profondément, le long d'une côte. Cette lame effilée mesure un peu plus de 8 de nos centimètres. On pousse, on traîne Damiens, on le bouscule jusqu'à la salle des gardes toute proche. Pendant ce temps, le premier gentilhomme fait remonter Louis XV jusqu'à sa chambre. Il faut dire que rien n'est prêt, puisque sa majesté devait coucher à Trianon. Quand un valet déboutonne le gilet, du sang jaillit sur le tapis et voyant cela, le roi s'évanouit. Panique générale, on crie, on s'affole, on allonge tant bien que mal le blessé royal. Il revient à lui. « Je suis assassiné », murmure Louis XV, « je vais mourir ». Il ne peut pas savoir en fait que sa blessure est tout à fait superficielle. « Allez me chercher un confesseur ». Du rez-de-chaussée remontent alors des cris affreux. C'est l'assassin, un certain Damiens, auquel, sur ordre du garde des Sceaux et pour lui faire avouer d'éventuels complices, on applique déjà des fers rouges sur les plantes des pieds. Le compte-rendu de cet interrogatoire sauvage sera la première pièce du sinistre de l'étrange dossier Damiens.
Cheers.
Mater d'Antonio Vivaldi, interprété par Philippe Jarouski et l'ensemble Mathéus Franck.
Philippe Jarouski qui sera notre invité
prochainement.
Très bientôt, oui. Exactement. Bonjour Evelyne Levert.
Bonjour Franck Ferrand.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir, vous le savez, vous êtes chez vous ici.
Alors, merci.
Nous venons de vivre ce moment d'émoi versaillais. Il faut dire que, évidemment, avec le recul, ça paraît relativement banal cette affaire. Finalement, on a bousculé Louis XV, on l'a un peu blessé, pas très gravement. Il s'est d'ailleurs remis très vite, en quelques jours.
Oui, mais enfin, on dit c'est quand même l'assassinat du roi.
Alors voilà,
On dit c'est l'assassinat du roi et le roi est extrêmement bouleversé par ce qui s'est passé. D'abord, il se croit mourant. Vous savez que le couteau, vous avez bien dit qu'il avait environ 8 cm, mais il aurait très bien pu tuer le roi. Il aurait pu déclencher une hémorragie interne. Et le roi était très couvert et donc le couteau a heurté les vêtements très épais du roi.
Mais on s'habille en velours l'hiver.
Oui, velours, laine, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. De ce fait, il n'a pas pu être vraiment atteint. Mais Louis XV est persuadé, lui, qu'il est vraiment atteint.
Et surtout, il est
atteint moralement.
C'est ça, quand on lui dit « Sire, la blessure n'est pas très profonde », c'est ce que lui dit son chirurgien.
C'est la tête et c'est le cœur qui est atteint.
Il dit « Si, je suis blessé jusqu'au cœur ».
Voilà. Il est blessé jusqu'au cœur et pendant plusieurs jours, il est derrière les rideaux de son lit et il ne veut s'entretenir qu'avec son confesseur. Il y a autour de lui alors toute la famille royale qui a accouru, la reine, ses filles, et on pense que le roi va tourner à la dévotion et il n'a pas fait prévenir
Madame de Pompadour,
qui est juste en dessous
dans son appartement,
oui, mais qui n'est plus sa maîtresse, mais qui est l'amie nécessaire et qu'il voit une longue partie de la journée. Donc on se dit qu'il va y avoir un changement dans l'attitude du roi parce qu'on sait tout de suite que la blessure n'est pas mortelle et même que le roi va pouvoir aller au bal très rapidement, comme dit le médecin, mais il est tellement atteint moralement qu'il n'arrive pas à se lever. Et c'est au bout de 8 jours, qu'un beau matin, eh bien, il demande à l'une des dames de la suite de la dauphine de lui donner sa pèlerine et il descend chez
Madame de chambre, en quelque sorte.
De Pompadour. Et il y revient et c'est un autre homme. Il se sent guéri parce que Madame de Pompadour a trouvé les mots qui convenaient pour le rasséréner. C'est d'ailleurs sa principale, disons, occupation depuis qu'ils ne sont plus qu'amis.
Alors Louis XV a été extrêmement bouleversé par cette affaire. Il faut dire qu'il vit dans une forme de culpabilité permanente et qu'à chaque fois qu'il voit son peuple se lever contre lui, il est très atteint. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est toute la France qui est extrêmement émue. Comme vous l'avez dit, il ne faut pas oublier que la personne du roi est parfaitement sacrée. On est dans cette monarchie de droit divin. Et s'attaquer au roi, c'est comme s'attaquer au Christ. C'est comme s'attaquer à Dieu, en quelque sorte.
Oui, non seulement c'est un régicide, c'est un parricide, c'est un régicide, et même à la limite c'est un déicide puisque le roi est le lieutenant de Dieu sur la terre et il est donc inspiré directement par Dieu. Ça c'est la fiction, disons, du sacre. Et c'est en cela que le crime de Damien est encore plus grave que si c'était un simple chef d'État élu. Là, c'est l'homme désigné par Dieu. Alors, toute la France est bouleversée. Mais quand on apprend que le roi est sauvé, on est assez vite rasséréné. Dans Paris, c'est un climat extrêmement étrange qui pèse. On se demande s'il y a eu un complot. Alors, on se dit, est-ce que c'est un complot des Anglais, parce qu'on est sur le point de déclarer la guerre à l'Angleterre, on abandonne très vite cette hypothèse. Est-ce que c'est un complot des jansénistes ou des jésuites? Là aussi, on abandonnera.
Alors, il faut expliquer ça, parce que c'est très compliqué. Alors, on va pas entrer
c'est
dans la théologie.
Compliqué. Oh non, non.
Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même deux mouvements très actifs, deux mouvements chrétiens, mais très différents. Les jésuites, effectivement, qui ne sont pas en odeur de sainteté à la cour à cette époque, et puis les jansénistes qui ne le sont pas non plus. Et qui sont en quelque sorte, qui sont surtout actifs dans les milieux parlementaires. Ce qu'on appelle les milieux parlementaires, ce sont toutes ces cours de justice qui, à travers le royaume, rendent les arrêts et enregistrent un certain nombre d'édits.
Voilà. Alors, il y a une crise parlementaire et une crise religieuse en même temps. Et de ce fait, eh bien, on dit que ça peut être les uns ou ça peut être les autres, sans rentrer, disons, dans les détails. Car on est dans une crise qui est une crise, disons, d'ordre politique, qui est teintée d'aspects religieux. Et il faut bien voir que là, le Parlement, dont vous venez de rappeler le rôle, le Parlement de Paris, qui est la plus grande instance et l'instance suprême en matière de justice, mais il y a d'autres parlements dans le royaume, et le Parlement s'oppose au roi. Il s'oppose au roi parce que il veut devenir un réel contre-pouvoir. Émane du roi à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et le Parlement a un droit. Lorsque le roi fait enregistrer un édit, il a le droit de remontrance.
Ce sont les lois de l'époque, en
quelque sorte. Ce sont les lois de l'époque, vous avez tout à fait raison. Et il a le droit de remontrance, c'est-à-dire un droit de critique vis-à-vis du roi. Et depuis plusieurs années, eh bien, il critique l'absolutisme monarchique. Et le jansénisme aussi, eh bien, remet en cause le modèle de la monarchie absolue de droit divin. Alors, et les parlementaires sont, disons, d'essence janséniste.
Et le jour où l'on va comprendre que ce Robert François Damien, donc cet inconnu qui vient de frapper le roi, a beaucoup fréquenté le milieu parlementaire et qu'il est littéralement imbibé de ce qui se dit chez les parlementaires, on imagine bien que la crise ne va faire que redoubler.
Nous parlons aujourd'hui de l'attentat de Damien et avant votre récit, Franck, nous sommes toujours en compagnie d'Evelyne Levert, qui, je le rappelle, est historienne, chercheure au CNRS et auteure notamment du livre Le Temps des Illusions, chronique de la cour et de la ville, 1715-1756, chez Fayard.
Oui, ces chroniques de la cour et de la ville, c'est toute la préparation de ce qui va se passer, puisqu'on voit justement tout le début du règne de Louis XV jusqu'en 1756, donc jusqu'à ce que survienne cet événement, qui encore une fois, sur un plan tout à fait matériel, sur un plan pratique, n'est pas grand-chose, mais sur un plan symbolique, est une cassure extraordinaire. On a osé attenter à la vie du roi, même s'il n'y a pas eu grand-chose. Et donc, c'est un coup de semonce terrible. Alors, on a bien compris la situation. Un roi qui est en bras de fer avec une magistrature qui veut de plus en plus de pouvoir, et entre les deux, ce domestique, parce que Robert François Damien est un domestique, finalement, oui, qui a servi chez des parlementaires, qui a été imprégné par l'opposition parlementaire à Louis XV et qui va finir par frapper le roi. Qui est-il exactement, Robert François? D'où vient-il?
Alors, c'est un gars, je dirais. C'est un gars du Nord. Il est de Béthune. Et il faut bien voir que, d'abord, physiquement, il est extraordinaire. C'est un colosse.
Une très belle prestance, oui.
Je ne sais pas si c'est une belle prestance. On a gardé ses vêtements, je crois, qui sont aux Archives nationales. Et on voit qu'il a une taille qui est très, très supérieure à la moyenne. Je dirais que c'est le genre grande brute. Et il a fait des études au collège de Béthune et ensuite il est devenu domestique dans ce collège de Béthune. Il a une certaine culture et il a été domestique après dans une quinzaine de maisons de parlementaires. Il n'est jamais resté longtemps et il passe pour un homme qui était plutôt déséquilibré. Il a en particulier servi chez la maîtresse de Marigny. Marigny qui était le frère
de Madame de Pompadour. Et l'espèce de super ministre de la culture de l'époque.
Exactement. Et on fait une enquête sur lui. Sa femme est cuisinière, sa fille est apprentie couturière. Enfin, il n'y a rien d'extravagant dans sa famille. Lui-même est un homme insaisissable et on décide qu'il sera jugé par le Parlement de Paris. Bon, par la grande chambre du Parlement de Paris.
Et là, il faut bien dire que les magistrats ont besoin de montrer leur bonne volonté. Parce que comme on les sait très opposés à Louis XV, il ne faut surtout pas qu'ils puissent paraître complices de Damien.
Absolument. Alors donc, on fait une enquête serrée et Damien parle peu. En fait, il ne révèle rien. Il a dit au début, lorsqu'il a été arrêté, qu'on se méfie de Monsieur le Dauphin. Peut-être que ses jours sont en danger. Ce que l'on veut savoir surtout, c'est s'il y a des complices, s'il y a des complots. Et Damien a répété, à qui voulait l'entendre, qu'il avait agi seul. Et on ne trouve aucune trace de complot. Et il dit qu'il a voulu donner un avertissement au roi, lequel n'écoute pas suffisamment son parlement et son peuple. Il dit que le roi doit davantage écouter son parlement. Alors on lui pose des questions sur le parlement et il dit que de toute façon, s'il n'avait pas servi chez des parlementaires et que s'il n'avait pas hanter les couloirs du palais de justice, eh bien, il ne serait pas là. C'est en entendant toutes les critiques qui ont été proférées contre Louis XV et contre la monarchie qu'il incarne, eh bien, qu'il a pris la décision d'avertir le roi. Mais, et qu'il n'avait pas l'intention de le tuer. Mais enfin, bon, évidemment.
Il faut dire que Louis XV, qui appelle toujours Damien ce monsieur, jusqu'à la fin de son règne, il dira ce monsieur, en parlant de Louis XV, était prêt à pardonner. Mais il fallait qu'il tienne compte, évidemment, de la situation politique.
Oui, c'était absolument invraisemblable de ne pas faire un procès à Damien. Et on a beaucoup discuté, est-ce qu'il fallait l'emprisonner? Oui, est-ce qu'il fallait l'exécuter? Et on a d'abord dit qu'il fallait qu'il subisse la question. C'est-à-dire la torture. Ces messieurs du Parlement ont réfléchi longuement. Il y a des dossiers qui préconise telle ou telle sorte de torture. On lui a appliqué ce qu'on appelle les brodequins. C'est-à-dire on enfonçait des coins de métal dans ses jambes qui étaient enserrées dans des barres de bois et on serrait de plus en plus. Et Damien, qui avait une résistance extraordinaire...
Ça va jusqu'à broyer les os des jambes.
Mais enfin, il fallait quand même qu'il puisse rester debout. Oui. Enfin, il était très, très amoché, si on peut dire. Bon. Et on a décidé ensuite qu'il serait écartelé comme l'avait été Ravaillac. Et d'ailleurs, il est dans la même cellule que Ravaillac.
Âme sensible, s'abstenir. L'écartèlement de Ravaillac, c'est dans quelques instants sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui revient maintenant sur le supplice de Damien et non celui de Ravaillac.
Oui, n'est-ce pas ? Décidément, cet hiver 1757 est rigoureux. Il fait un froid vif à Paris le lundi 28 mars, date fixée pour l'exécution publique du condamné. Et pourtant, les gens se sont déplacés en foule. La place de Grève, notre actuelle place de l'Hôtel de Ville, et ses abords sont noirs de monde. Certains ont passé la nuit dans le froid pour être bien placés, vous avouerez quand même. D'autres, plus fortunés, ont loué des salons donnant sur la place jusqu'à 300 livres, l'équivalent de 10 000 euros. On pourrait croire que le spectacle atroce qui se prépare n'intéresse que la populace. Il n'en est rien. Une sorte de snobisme s'est emparé de la cour et de la ville et les dames les plus élégantes se sont bien jurées de ne rien manquer de l'écartèlement de Robert-François Damien. Une petite plateforme de 8 pieds sur 4, c'est-à-dire à peu près 2,40 m sur 1,20 m, a été bâtie à 1 mètre du sol, si je puis dire, j'emploie nos mesures modernes. C'est là-dessus que l'on doit allonger le condamné, qui sera solidement arrimé par des carcans au cou, aux épaules et au ventre pour permettre l'arrachement de ses membres. Le service d'ordre est très imposant, on a évidemment déployé tous les soldats dans Paris. La tribune officielle est beaucoup plus vaste que de coutume et le nombre d'exécuteurs est exceptionnel. 16 bourreaux venus de toute la France. Il faut que tout ça soit très symbolique. Dans le courrier d'Avignon, qui paraîtra le 8 avril suivant, un dénommé Robert de Beauvray décrit l'arrivée du condamné dans un tombereau sur les coups de 3 heures de l'après-midi. La foule est relativement silencieuse, dit-il. On se met sur la pointe des pieds pour tenter de voir le condamné lorsque les bourreaux dénudent son corps, l'attachent à l'échafaud, le préparent. Damien reste très calme, il observe tout avec un apparent détachement. Quand on lui eut rabattu sa chemise qu'on arrangea à peu près de la manière que nos crucifix sont garnis aux endroits de la vergogne, écrit le témoin, il fit voir un corps potelé. Il n'y a point de femme qui n'eût gagné à troquer sa peau contre la sienne. Qui sait, car le diable est bien malin et tire parti de tout, qui sait si la vue de ce corps humain en si bel et si attrayant état ne fit point naître dans l'esprit de quelques-unes de celles qui étaient là des pensées de lubricité et de désir. En attendant, autour de l'échafaud, l'heure est à l'affolement. Quand il s'est présenté, le bourreau, Gabriel Sanson, qui, aussi incroyable que ça paraisse, a délégué les préparatifs du supplice. Quand Sanson est arrivé, il s'est rendu compte que rien n'avait été préparé sérieusement. Le bois du bûcher est humide, le plomb, le soufre, la cire, tout fait défaut. Il va falloir près d'une heure pour que des valets aillent acheter tout ce qui manque chez les marchands du voisinage. Et inutile de vous dire que les marchands en question se montrent peu coopératifs. Pendant ce temps, le condamné prend attend patiemment, exhibé dans le froid sous les yeux de cette foule de plus en plus impatiente. Enfin, vers 4 heures de l'après-midi, les horreurs commencent. Un document conservé aux Archives nationales raconte le début du supplice. Je cite « L'exécuteur commençant le supplice de ce parricide, donc parricide parce qu'on estime qu'en ayant tué le roi, il a tué le père de tous, lui soutint la main droite avec une tenaille au-dessus du feu de soufre avec lequel elle lui fut brûlée au point d'en faire tomber les chairs. Quoiqu'avec ma lunette d'approche, je vise distinctement le feu, je ne pus discerner le couteau attaché dans la main, mais l'on entendit très bien les cris affreux qu'il jetait et je vis au mouvement violent de sa tête à quel point pouvait aller la douleur. » Et le témoin ajoute « C'est au tour du bourreau d'Orléans qui, muni de tenailles d'acier tranchantes aux manches hautes de 2 pieds, mord la mamelle droite du condamné et arrache un morceau de chair. » Puis ensuite, c'est l'exécuteur de Lyon qui verse dans la blessure avec une grande cuillère de fer du plomb fondu. Et je vous passe tout ce qu'on met là-dedans. Cette cruelle opération, dit-il, fut continuée aux bras, cuisses et jambes. Les bourreaux ayant passé de l'autre côté, du côté gauche, rue du Mouton où se trouvait le témoin. Alors là, il vit vraiment toute l'opération. Et je sais que certains d'entre vous sont sans doute un peu sensibles, donc je ne vous dirai pas tout ce qu'il voit. Mais c'est épouvantable, bien entendu. Tandis que les prêtres tentent d'apaiser Damien, il lui donne le crucifix à baiser, vous savez. Le condamné voit maintenant les bourreaux attacher solidement ses bras et ses jambes à des palonniers et chaque membre est relié à 2 chevaux. Alors là aussi, je vais vous faire grâce de la description précise des atrocités qui s'ensuivent, mais sachez quand même qu'il va falloir 1h30, 60 tentatives et l'intervention de bourreaux armés de couteaux pour permettre l'écartèlement du malheureux qui pousse des hurlements infinis. C'est inouï, mais il est encore vivant puisqu'on voit sa poitrine haletée au moment où il est réduit à l'état d'un tronc sanguinolent. Ses restes seront brûlés 4 heures durant et ses cendres seront dispersées dans le vent de la nuit.
Dédérite sur Europe, un extrait du Nisi Dominus de Vivaldi, Franck.
Alors qu'un acte de barbarie aussi incroyable ait pu être perpétré en France, à Paris, en plein siècle des Lumières, tout ça paraît difficilement croyable et pourtant c'est la vérité. Qui avait intérêt à une telle infamie? C'est peut-être la question qu'il faut se poser et que nous allons nous poser dans un instant. Et puis surtout, je vais donner la parole à une historienne qui vient de découvrir de quoi changer notre regard sur ce sombre événement.
Franck Ferrand sur Europe 1.
La journée sera rude, avait-il dit. C'est dans un tombereau qu'il fut conduit. À la place de grève, à son bourreau et ses 16 assistants sur l'échafaud.
Damien sur Europe 1, Arbonde, après le texte de Michelet sur l'exécution de Robert François Damien.
Alors, je vous avoue que j'ai été très, très, très mesuré dans mes lectures et je ne
et
vous ai pas
vous.
Lu ne serait-ce qu'un dixième de tout ce qu'on possède. Et malgré tout, je vois que certains, même en régie, ont commencé
sont
à tourner de l'œil.
Alors,
je vous prie de m'excuser tous ceux que nous aurions choqués, mais c'est vrai que cette exécution a été effroyable, Evelyne Levert.
Oui, et c'était un spectacle. Il faut bien se dire cela. Par exemple, la condamnée. Alors lui est venu,
le grand savant,
grand naturaliste, il est venu voir cela comme une expérience
comme
de physique,
dissection. Oui, voilà.
Comme une dissection. Et alors, il y a un visiteur tout à fait extraordinaire, c'est Casanova, qui arrive là avec 2 charmantes dames. Les 2 dames sont sur le balcon et lui est avec un ami derrière les 2 dames. Et les 2 dames sont assez émoustillées. Et Casanova est quand même assez... affolé, dégoûté par ce qu'il voit.
Au moins autant aussi dégoûté par le spectacle des dames que par celui du supplice.
Exactement. Mais il faut bien dire que les exécutions publiques ont lieu en France jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et la dernière exécution publique a donné lieu à des scènes de ce genre en 1939. Ou 39.
Oui, enfin, on était quand même avec la guillotine.
Mais la guillotine,
loin,
enfin, c'est pas charmant non plus.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, nous allons quitter, si vous voulez, cette exécution elle-même. Dire un mot du roi qui n'est bien sûr pas venu assister à l'exécution, oui. Qui se l'est fait raconter.
Et qui était, paraît-il, en prière pendant qu'on exécutait Damien. Mais le roi est traumatisé parce que le roi est déjà impopulaire depuis une dizaine d'années. Lui qui a été le bien-aimé et il commence à dire « je suis le bien-haï ». Et il ne comprend pas ce qui le sépare maintenant de son peuple. Parce que l'émotion par rapport à l'attentat est retombée extrêmement vite.
Bonjour Marion Sigaud.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes l'auteur chez Jacqueline Chambon de « Mourir à l'ombre des Lumières, l'énigme d'Amiens ». Et c'est ce travail que vous avez fait, cette recherche, est née d'une intuition. Il faut avoir des intuitions quand on est historien. Ensuite, il faut pouvoir évidemment les étayer. Mais c'est bien d'avoir quelques idées comme ça. Et votre intuition est venue d'un précédent travail que vous aviez fait, qui était paru en 2008, sur l'hôpital général, ça s'appelait la Marche Rouge, sur l'affaire de l'hôpital général. Alors moi qui ai beaucoup travaillé il y a 15 ans de ça à l'EHESS sur les événements de 1750 et les prétendus enlèvements d'enfants, je dis prétendus parce qu'il y a eu énormément de rumeurs autour d'un fait. Vous avez étudié ça en détail. Il faut peut-être, si vous le voulez bien, que nous revenions sur l'hôpital général avant d'en arriver à Damien pour expliquer comment est venue votre intuition. Alors, qu'est-ce que c'était déjà que cet hôpital général ?
L'hôpital général, c'est l'institution qui a été créée au début du règne de Louis XIV par des magistrats, donc par des laïcs, destinés à venir à bout de ce qu'on appelait le fléau de la mendicité. Mm-hmm. Et au début du règne de Louis XIV...
Il y avait énormément de mendiants partout.
Il y avait énormément de mendiants, c'était le lendemain d'une guerre civile qui avait duré 4 ans, la Fronde. Donc il y avait énormément de gens qui avaient tout perdu et qui venaient à la ville où se trouvaient les subsistances et qu'on voyait, qui dérangeaient pas seulement les nantis. Enfin, je veux dire, une ville bien policée ne peut pas être encombrée de gens qui tendent la main et qui ne font rien. Et vous avez eu deux façons de regarder la chose. Vous aviez la façon empreinte de bonté de Vincent de Paul qui voulait aider les pauvres à ne plus être pauvres et à se sentir bien. Et vous aviez les donneurs de leçons de la Compagnie du Saint-Sacrement qui disaient « ce sont des feignants, il n'y a qu'à les fouetter, les enfermer et les faire marcher droit ». Je caricature, mais à peine.
Michel Foucault a beaucoup travaillé là-dessus, bien sûr, sur l'enfermement, ce qu'on appelle le grand enfermement.
Le renfermement, on disait. Renfermer quelqu'un, c'était l'interner, en fait. Mmh. Donc l'hôpital général est né à ce moment-là et il a été d'emblée une institution laïque, rigoureusement laïque, dans laquelle les seuls religieux qui avaient quelque influence étaient ceux qui étaient proches de la magistrature, d'une magistrature alors à l'origine proche de la Compagnie du Saint-Sacrement.
Donc les fameux parlements dont on parle.
Les magistrats du Parlement de Paris, qui avaient énormément de prérogatives, notamment celle d'enregistrer, donc de rendre valides les décisions royales. Donc ils avaient une influence
politique
très importante.
Ce n'était pas seulement un pouvoir judiciaire.
Tout à fait. Louis XIV les a combattus jusqu'à la fin. Alors, la Compagnie du Saint-Sacrement a été rapidement interdite et les postes occupés à l'hôpital général par les magistrats proches de la Compagnie du Saint-Sacrement ont été immédiatement remplacés par des magistrats proches du jansénisme.
Mmh. Alors, on a toujours ce problème dès qu'il est question du jansénisme, c'est que ce serait tellement compliqué à expliquer. Mais
non,
ce sont des catholiques très radicaux.
Non, c'est pas comme ça qu'on peut dire. On peut dire que le jansénisme est une forme de protestantisme qui n'a pas fait sa scission avec Rome.
Voilà.
C'est-à-dire que le fond du problème, c'est le problème de la grâce. La grâce est-elle donnée à tous les hommes ou la grâce est-elle donnée à certains ? Le catholicisme prône la grâce donnée à tout le monde, avec la grâce efficace, la grâce nécessaire. Enfin,
oui.
Je rentre pas dans les détails. Alors que pour les jansénistes, la grâce est accordée aux élus, ce qui est en fait la position protestante. Mais les protestants ont rompu avec Rome, alors que les jansénistes jamais n'ont rompu avec Rome.
Ils ont fait
des cheveux blancs quand même au pape à différentes
époques. Ils étaient la bête noire du pouvoir royal, à commencer par Louis XIV, bien sûr, mais Louis XV aussi, ils ne les aimait pas. Et encore une fois, c'est dans les milieux parlementaires qu'on trouve le plus de jansénistes.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est une théologie, enfin, c'est plutôt une religiosité curiosité, mais c'est surtout une morale publique qui convient tout à fait aux magistrats du Parlement de Paris et à toute la société qui gravite autour.
Alors cette affaire de l'hôpital général prend une singulière tournure au milieu du XVIIIe siècle, en 1750, donc
c'est-à-dire
au bout d'un siècle
après,
d'existence.
Voilà, au bout d'un siècle d'existence, les magistrats sont toujours à la tête de l'hôpital général. Le roi reçoit régulièrement des plaintes, des rapports sur la concussion, des malversations, des abus, des violences, tout le monde se plaint de l'hôpital général, dans lequel les magistrats sont juges et parties, c'est-à-dire que personne n'a le droit, et c'est statutaire, j'ai regardé dans les statuts de l'hôpital général, que personne n'a le droit de demander des comptes sur l'hôpital général, personne n'a le droit d'écrire sur l'hôpital général, et quand il y a un conflit dans l'hôpital général, ce sont les juges qui jugent, c'est-à-dire que ce sont les juges qui s'auto-jugent, donc personne n'a votre cas. Et l'Église...
Or, vous avez mis, vous, en évidence, des pratiques extrêmement choquantes, incroyables même, des pratiques de viol et de meurtre.
Il y a une mortalité. Alors, bon, je vais directement aller au cœur. Oui, j'ai étudié à la loupe les entrées et les sorties des enfants dans l'institution de l'hôpital général.
Quand on dit enfants, au XVIIIe siècle, on englobe aussi une partie d'adolescents, hein, il faut dire.
J'ai fait mon compte jusqu'à 14 ans.
Voilà, c'est ça.
Hein. Jusqu'à 14 ans. J'ai lu un livre d'une dame qui s'appelait Erika Marie Benabou, qui a travaillé sur la prostitution et la police des mœurs au siècle, et qui dit, elle a étudié ça de très près, et elle dit, la puberté des jeunes filles du siècle est atteinte à 15 ans. Les premières règles arrivent à 15 ans. Donc on est une petite fille jusqu'à 15 ans. Et les enfants dont j'ai regardé les mouvements sur les registres de l'hôpital général, c'est de 0 à 15 ans. Des milliers d'enfants entrent dans l'institution, en sortent et disparaissent. Et ceux qui entrent tombent comme des mouches, sont victimes d'une mortalité absolument ahurissante et inexplicable. En tout cas, inexpliquée jusqu'à présent.
Alors, c'est dans ce contexte-là que vous resituez l'affaire d'Amiens, ce qui lui donne évidemment un relief tout à fait différent. Nous allons voir jusqu'où on peut vous suivre, mais il faut reconnaître que le regard que vous portez sur l'affaire d'Amiens est tout à fait nouveau.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Jusqu'à 14h, nous revenons sur l'attentat de d'Amiens, toujours en compagnie des historiennes Evelyne Levert et Marion Sigaud, Franck.
Et Marion Sigaud est l'auteur donc de « Mourir à l'ombre des Lumières », une énigme d'Amiens. C'est un récit que vous nous donnez, hein, sous une forme assez originale d'ailleurs, disons-le. Et vous donnez une grande place dans ce récit au prince de Crouy, qui était un intime de Louis XV du reste, et qui a été partie prenante à cette affaire et à l'enquête en fait.
Voilà. Le prince était un homme très aimable, bien avec tout le monde, un homme d'un tempérament tout à fait généreux, pacifique et bien vu de tout le monde. Je ne vois pas ce qu'on pouvait dire de mal de lui, j'ai lu absolument toutes ses mémoires. C'est un homme délicieux et comme il était commandant militaire de la région d'Artois, il a été, Madame Levert m'arrêtera si je dis une bêtise, il a été envoyé le surlendemain de l'attentat pour faire l'enquête dans le pays d'Amiens où il avait passé les 6 derniers mois précédant l'attentat. Le prince a fait un rapport d'une précision, d'une justesse, d'une minutie absolument extraordinaire. Et à partir des rapports, j'ai fait mon enquête en grande partie à partir des rapports du prince.
Qui se trouve en Allemagne?
Alors il se trouve en Allemagne. Non, les rapports qu'il a donnés se trouvent dans le dossier d'Amiens, à la fois dans les papiers du procureur, à la Bibliothèque nationale et à la fois aux Archives nationales, dans les papiers dont se sont servis les magistrats instructeurs. Et ensuite, le rapport est également dans le dossier qui a été publié, qui a été imprimé, publié et vendu. Mais ce que je suis allée chercher en Allemagne, ce sont les brouillons de ces rapports, puisque au lendemain de la Révolution, le fils du prince de Croy a émigré et il a emporté avec lui les documents de son père. Et moi, j'ai voulu absolument, me rendant compte, en comparant les papiers qu'on trouvait dans les archives du procureur, les papiers qu'on a fournis aux magistrats instructeurs, et ensuite la différence entre les papiers fournis au magistrat instructeur et ce qui a été publié, j'ai compris que de rapport en rapport, on tronquait systématiquement certains
détails. On a beaucoup édulcoré la vérité.
On a retiré systématiquement ce qui pouvait, c'est ce que j'en ai conclu, mais jusqu'à plus ample informé ou jusqu'à ce que
c'est là, c'est là qu'on entre dans les hypothèses.
Voilà. C'est là qu'on entre dans les hypothèses. Je ne fais pas au-delà d'hypothèses, mais je montre vraiment des choses très troublantes. J'ai voulu aller voir les brouillons, les origines.
Mais
j'ai trouvé énormément de choses.
Dites ce que vous avez donc conclu. Quelles sont les hypothèses?
Alors, moi, ce que j'ai compris, c'est que il est existe dans les papiers du procureur une déclaration posée le surlendemain de l'attentat par un des maîtres de Damien qui dit « on a enlevé la fille de Damien en 1750 ».
C'est une découverte, oui.
C'est une découverte qu'un historien américain d'ailleurs a relevé, mais cet historien américain a dit « oui, mais c'est idiot, parce que pendant l'affaire où on enlevait des enfants, il y a eu en 1750 des enlèvements d'enfants dont beaucoup de gens ont dit que ça n'était pas vrai. Moi, je suis allé regarder, j'ai retrouvé les registres, on enlevait effectivement un tas d'enfants, j'ai leur nom, j'ai leur identité, je
sais combien... » Important ce que vous dites, parce que ça, c'était l'objet de votre précédent livre, oui. C'est que moi je me rappelle lorsque je travaillais là-dessus, on travaillait sur une rumeur dont on disait qu'elle n'était sans fondement.
Et vous dites que la rumeur était sans fondement et la réalité était autre. La rumeur disait un prince ladre a besoin que des enfants soient saignés.
Pour des bains de sang.
Donc voilà, bains de sang. Donc la rumeur étant fausse, on passe à autre chose. Or, on enlevait véritablement des enfants.
En fait, il n'y a pas de fumée sans feu en quelque sorte.
Il n'y a pas de fumée sans. C'est-à-dire qu'on fait une fausse fumée colorée pour dire regardez, c'est de la fausse fumée et pendant ce temps-là, on cache la vraie. Donc moi j'ai retrouvé l'identité de ces enfants. On a dit il n'y avait pas de petites filles enlevées. Il y avait des petites filles enlevées. Elles étaient mises à la salpêtrière. J'ai retrouvé toute leur identité. J'ai absolument tout relevé. Je n'ai pas trouvé la fille de Damien. À l'origine, je suis allée là pour la chercher. Elle n'y était pas. Mais j'ai eu une première information disant il y a dans les papiers du procureur une déclaration du comte de Maridor qui était un des maîtres de Damien à l'époque. Pendant cette période des enlèvements d'enfants, et le comte de Maridor dit, il était un très bon serviteur, mais il avait des attitudes bizarres. Par exemple, il a dit qu'on avait enlevé sa fille, et il m'a même montré une lettre de menace qu'il a envoyée au lieutenant général de police, où il a menacé de lui faire un mauvais sort si on ne lui rendait pas sa fille. Et ce papier qui a été, cette déclaration du comte de Maridor qui a été faite le surlendemain de l'attentat, n'est dans aucun dossier de l'instruction. On l'a retiré. La fille de Damien, qui était donc partie prenante dans cette histoire, a été arrêtée 3 jours après son père et le premier interrogatoire disponible à la recherche date d'un mois plus tard. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a pu dire pendant les premiers interrogatoires a été tronqué. Et j'insiste également, tout ce qu'a dit Damien pendant les premières 24 heures suivant son arrestation a été retiré du dossier.
Et qu'est-ce qu'il disait ?
On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. Ce qu'on sait simplement, c'est que tout ce qu'il a dit spontanément au moment de son arrestation a été retiré et que les premiers papiers officiels, et je peux vous expliquer, mais je ne pense pas qu'on aura le temps, les premiers papiers officiels datent d'une période où il a déjà passé 24 heures, où il peut se ressaisir, où il a compris ce qu'il ne fallait pas éventuellement dire. Et en plus de ça, les deux premiers magistrats instructeurs qui ont travaillé jusqu'au transfert de Damien de Versailles à Paris, on fait des rapports qui ne sont nulle part. Nulle part. Donc il y a un secret total sur tout ce qu'a pu dire Damien, ce qu'on dit. Le comte de Marie, le marquis de Marigny, frère de la marquise, se répondait partout en disant « N'écoutez pas ce qu'il dit, c'est un fou ». Il a déposé et la déposition a disparu.
Alors, indirectement, Damien avait travaillé pour Marigny et il était donc au courant des meurtres du roi lui-même, de
Louis XV. Et le roi était accusé depuis des années de coucher avec des petites filles. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, je pense que c'est
encore
vrai.
Encore une fois, quand on dit petites filles, c'est pour ça que je précise à chaque fois, ce ne sont pas des enfants de 8 ans.
Peu importe.
Oui, mais enfin, non, ce sont des très très jeunes filles.
C'était des très jeunes filles. C'était des très jeunes filles. Et de toute façon, ça n'était pas la marquise ni sa femme. Donc, la population était extrêmement choquée. Et jusqu'à 15 ans révolus, on était une petite fille à l'époque.
Voilà.
Voilà. Alors, on a des tas d'indications. Le marquis d'Argenson a beaucoup raconté. Enfin, il y a des tas de gens qui ont raconté. Donc, que le roi était pédophile.
Au-delà de l'imprégnation politique par le milieu parlementaire dans lequel il avait tant servi. Vous nous dites qu'il est possible que Damien ait été marqué par tout ce qui se disait sur les mœurs de Louis XV, par ce qui était arrivé à sa propre fille et par ce climat général d'enlèvement d'enfants. En quelque sorte, il y aurait une dimension sexuelle ou en tout cas, cette affaire serait en partie une affaire de mœurs.
C'est l'hypothèse que j'avance et je pense qu'elle est crédible. J'ai fait toutes mes études dessus. Je pense que je suis pas loin de la vérité si je ne suis pas en plein dedans.
Voilà qui apporte un tout nouvel éclairage. Alors sous bénéfice d'inventaire, Evelyne Levert.
Oui, sous bénéfice d'inventaire, mais on apportait des jeunes filles au roi qui étaient des jeunes filles nubiles, mais je crois que disons que il n'avait pas besoin qu'on enlève des enfants pour ce genre de choses, parce que ses valets de chambre allaient lui chercher des jeunes filles qui étaient parfaitement consentantes et dont les parents étaient parfaitement consentants. Alors, je ne pense pas que, disons, l'hypothèse là puisse vraiment se vérifier, je ne sais pas, dans ce sens-là.
Non, les enlèvements d'enfants n'étaient pas pour le roi, certainement, ça n'est pas ce que je dis.
Bien sûr, c'est dans le cadre de l'hôpital général.
Il y a 7 ans de différence entre les enlèvements d'enfants et l'attentat.
Bien sûr. Oui, mais enfin, je crois qu'il ne faut pas faire d'assimilation... dangereuse, me semble-t-il.
On a enlevé des enfants pour le roi, ce n'est pas ça que je dis. On a enlevé sa fille et ensuite
nous
il a su
pas
que le
temps nous manque, malheureusement.
Un débat maintenant. Merci beaucoup à vous deux. Evelyne Levert, je rappelle que vous êtes donc l'auteur du Temps des illusions, chronique de la cour et de la ville. Ça se termine en 1756. Et le prochain tome qui sortira au printemps prochain, eh bien, commencera par l'attentat de Damiens, justement. Et puis Marion Sigaud, cette passionnante énigme d'Amiens, Mourir à l'ombre des lumières, c'est aux éditions Jacqueline Chambon. Merci beaucoup d'être venue nous en parler.
Merci.